Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Kionogi. Bonjour Fernand, comment ça va?
C'est bien, Thomas.
Ça va très bien. Donc là, on va revenir sur les actus du moment, on va parler des Français, et puis gros sujet du jour intemporel, qui est le mec le plus violent de l'histoire du MMA? Pourquoi? C'est en écho à ce qui s'est passé lors de l'UFC 291, événement qui a tenu toutes ses promesses. Franchement, ce genre de soirée, c'est...
Une ligne d'arrêt.
On est d'accord. On va... Vas-y.
Non, c'était bien. C'est une très belle soirée.
Est-ce qu'il y a un athlète, un moment qui t'a particulièrement marqué, toi?
J'ai beaucoup aimé ce que a fait Kevin Holland. Parce que c'était pas évident. C'est pas un match gagné en avance, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et puis, les autres performances. Justin Gaethje, ça a été un peu court. C'est dommage parce que c'était un banger. C'était un gros fight. J'ai beaucoup aimé Kevin Holland. Et puis, Justin Gaethje, c'était tellement beau le fight que finalement, c'est un peu... Il y avait un match là sur les kicks. Des kicks très précis, très puissants, un très bon jab de la part de Justin Gaethje. Mais voilà, ça s'est écourté. On kiffe le mouvement, c'est juste trop beau. Et tu te dis, ah, c'est dommage que ça n'arrive pas à la fin, comme sur Leon Edwards et Usman Kamaru, parce que du coup, on a raté un beau combat. Tu vois ce que je veux dire? C'est allé trop vite. Mais une soirée qui était magnifique, excellent.
Et quand tu vois qu'un Gaethje là demande le combat pour le titre, est-ce que tu penses pas qu'il a ses chances, mais qu'il repartirait vainqueur, peu importe le gagnant d'Oliveira Makhachev, ou c'est compliqué puisqu'on l'a déjà vu dans des dispositions similaires?
Non, c'est toujours gagnant. Il faut que les gens qui nous écoutent et qui ne comprennent pas le game, des fois, ne se posent même pas la question. Quand tu es dans le top 10, ton seul fil conducteur de toute ta vie, c'est la ceinture. Le reste, bouché. Parce que dès que tu es dans le milieu, soit en tant que combattant, soit en tant que coach, soit en tant que manager, soit en tant que qui que ce soit dans le milieu, tout ce qui est intéressant, les conséquences de ceinture ou pas ceinture, c'est du simple au quadruple des fois. Tout devient super. Voilà, la femme qui va avec, l'argent qui va avec, le palmarès, parce que mine de rien, l'histoire, c'est aussi le palmarès, c'est de raconter un peu à la fin de ta vie, à la fin de la vie d'un combattant, ce qu'on va retenir, c'est que Dustin Poirier était champion intérimaire. Il le dit en presse conférence, champion intérimaire, ça vaut mieux que BMF. Donc c'est la ceinture, la clé de tout ça, en fait. À partir du moment où tu te retrouves dans la situation de Sean Strickland, tu donnes tout pour aller affronter le champion. À partir du moment où tu te retrouves dans la situation de, je sais pas moi, Pereira qui vient de battre le Polonais, tout ce que tu veux, c'est le positionnement pour que tu affrontes le prochain champion. Il n'y a pas photo, c'est la ligne de conduite, c'est... Pour te dire combien de fois c'est important la ceinture, c'est que on parle à Justin Gaethje d'affronter le mec le plus bankable de l'histoire du MMA en termes de chiffres et qui peut lui faire rentrer des sous. Et il hésite, il s'en moque un peu. Il dit, bon, là, c'est Conor qui chasse Conor McGregor, qui était le chassé, le pourchassé, aujourd'hui est à aller chercher les mecs qu'il va affronter. Et c'est lui qui va demander, par exemple, à affronter Justin Gaethje, quand Justin Gaethje va dire, bon, je sais pas, je sais vraiment pas, il m'a esquivé plusieurs fois, il ramène la rancœur, en mode, quand il était quelqu'un, il m'a esquivé, maintenant il m'appelle, bon, tu vois. Et je comprends absolument, je comprends.
Ok. Concernant le co-main event, donc c'était Alex Pereira contre Jan Błachowicz, premier combat en light heavyweight pour Alex Pereira. Il a tout connu dans ce combat. Est-ce que toi, là, tu te dis que c'est quelqu'un, déjà, t'as vu ses progrès en MMA et qu'effectivement, il est prêt pour les grosses, grosses joutes qui l'attendent. Ou ça
Absolument.
Peut être compliqué.
Non, non, non. Il nous a prouvé qu'il a... Tu ne peux pas commencer le combat dans une pire situation. Dans le cas d'Alex Pereira, tu ne peux pas faire pire que ça. D'avoir un Jan Blachowicz qui est frais, qui est dans ton dos, qui est... Enfin, tu ne peux pas commencer avec une... Voilà. Mais il a montré qu'il était solide, qu'il pouvait aller. C'est simple. Si Jan Blachowicz affronte Jerry Prochazka pour la ceinture et il gagne, il sera potentiellement considéré comme l'un des plus grands combattants de l'histoire des arts martiaux modernes. Parce que, en termes de palmarès, ce serait le premier être humain, double champion du Glory, qui deviendrait double champion à l'UFC. Il aura battu tous les records qui existent sur le MMA moderne. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Le fil conducteur de tout combattant, dès que tu es rentré dans le classement mondial du top 10, le seul fil conducteur qui compte, c'est la ceinture. Peu importe qui est face à toi, peu importe où, quand, comment, c'est la ceinture. Parce que ça va être le résumé, enfin le CV de ta vie. Et donc, voilà, je avoir ce combat-là, ce test-là, c'était le meilleur test qu'il puisse avoir. Et ensuite, il faut comprendre un truc. C'est qu'il a battu le seul mec qui avait déjà, avec lui, battu Israël Adesanya. Il est en train de boucler une boucle très intéressante. Et puis, la vérité, c'est que si on t'avait posé la question, si on te pose la question, entre Jerry Prochazka et puis...
Pavlovitch
Non, le problème...
Pavlovitch, wow, Blachowicz, pardon.
Blachowicz. Ouais. Entre Jerry Prochazka et Blachowicz, qui serait le combat le plus compliqué? Tu aurais dit... instinctivement Blachowicz, puisqu'il y a la notion de lutte, il y a la notion de sol, et que c'est compliqué. Il a passé l'épreuve. Il est allé en enfer, à la décision. Décision compliquée, il y a même des gens qui ont parlé du vol, moi je trouve pas que c'est un vol, je trouve que c'est un combat correct, et qu'il a marqué beaucoup de points debout, il a mis beaucoup de jab au corps, il a beaucoup travaillé. Voilà. Donc je pense qu'il était bien. C'est exactement ce qu'on veut. Le meilleur test que tu peux avoir pour un combattant de ce niveau, un striker de ce niveau, c'est qu'il puisse se mouiller dans toutes ses dimensions et s'en sortir. C'est ça qui est le kiff.
Et c'est ce qu'Alex Pereira a fait là, ce samedi justement. Non, franchement, moi il m'impressionne, hein, parce que oui, effectivement, le combat était serré, mais là il a affronté peut-être le plus gros test pour lui dans cette catégorie, et là c'est vrai que contre Prochazka et même contre s'il venait affronter Jamal Hill, je pense que c'est plus simple pour lui.
Voilà, ils auront du mal à l'amener dans une dimension où ils vont le noyer. Alors tout est possible sur un combat des MMA, mais tu sens vraiment que parce que Blachowicz, c'est un très bon grappleur, c'est un excellent grappleur. Et voir ce qu'il a fait, c'est bien. Moi, je pense qu'il a prouvé un truc. Dorénavant, il fait partie de la classe des combattants des MMA. Si le chemin qu'il fait, il a un chemin qui est même encore mieux que s'il avait battu Israël Adesanya sur le dernier combat. Imagine, il combat Jerry Prochazka, il gagne le combat. Donc, il devient le mec qui a été champion à 84, champion à 93, double champion Glory. La trilogie devient obligatoire à l'UFC entre lui et Israël Adesanya. Imagine le banger. Et s'il réussit à gagner Israël Adesanya, c'est le goal. Fini, échec et mat.
ce serait complètement fou, Fernand. Est-ce que tu penses... Il y a beaucoup de questions autour de... Enfin, pardon. J'ai deux questions. Alex Pereira, déjà, quand tu vois la transition, donc on va dire kickboxing vers MMA, il y a plusieurs écoles. Il y a la tienne, celle de Gene Berman, où c'est justement devenir insaisissable pour ne pas avoir ces situations-là. Et Alex Pereira, on voit qu'il est beaucoup moins mobile. Est-ce que toi, si tu avais eu un gars comme ça qui était arrivé chez toi, tu te serais dit, oula, il y a peut-être. Enfin, comment? On voit moins un succès potentiel qu'en ayant une approche Adesanya Cyril Gane, tu vois.
Non, je pense que ça dépend toujours du style des personnes. Il y a eu.
Bah Francis n'était pas très mobile, par exemple, pour toi.
Francis n'était pas très mobile, mais il bougeait quand même. Il savait faire. Il savait créer un peu de distance. On lui a apporté beaucoup de mobilité. Cyril ne bougeait pas beaucoup, hein. Attention, il ne bougeait même pas. Hein, pour te dire la vérité, quand Cyril est arrivé au MMA Factory, c'était marche en avant. Hein. Sauf qu'à l'époque, il est tombé à l'époque où il y avait un jeune au MMA Factory qui venait de la Europe Top Team où il y a Anthony Dizzy. Il s'appelle Alex Fontes. Ils sont entrés au MMA Factory quasiment le même jour. Alex Fontes, 93 kilos. Cyril Gane faisait environ 100 kilos. Je peux te dire que le sparring était archi intéressant. Parce qu'Alex Fontes, c'est un lutteur en chaîne. Il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Et derrière, Cyril Spolet, Spolet, Spolet. Parce qu'il n'avait pas le déplacement qu'il a aujourd'hui. Mais pour répondre à ta question, si j'avais eu un mec avec du striking, mais qui ne bouge pas beaucoup, la réponse c'est, je l'ai en ce moment à la salle et je kiffe de ouf. Je n'aurais jamais cru que j'allais kiffer. Alors, attention, s'il m'écoute, je veux qu'il continue à apprendre à se déplacer parce que c'est un joker.
Et tu peux dire qui c'est ou pas, ou non?
Aziz Lali.
Ok.
Aziz Lali, pour les 66 kilos, c'est un poison. Je ne devais pas le dire parce que ça va compliquer les match-ups pour lui. Mais il ne bouge pas beaucoup, mais il a comment dire, un sens comment dire, d'utilisation de son bassin quand tu avances, c'est légendaire. J'ai rarement vu ça. Il a un Muay Thai très solide où il est face à toi et tu vois bien qu'il est solide sur ses appuis au moment où tu vas entrer. Quand tu décides d'entrer, il a un truc, un réflexe d'antéversion, rétroversion du bassin. J'ai jamais vu ça. Je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est un réflexe chez lui. Il défend terriblement et derrière ça, tu vas être puni salement. Mais genre, avalanche de coups de genoux dans la foulée. Ultra brutal. Ultra, ultra brutal. Voilà, moi, ce que j'aime dans la pédagogie, c'est d'adapter autour de ce que le gars a comme arme. Ça veut dire que tu lui donnes quelques idées en lui disant, écoute, quand tu tombes sur des très gros lutteurs, parce qu'il y a des mecs à la salle qui sont, c'est un autre niveau de lutteur. Des gars qui, les frais, ils nous sauvent, peu importe la catégorie de poids, ils mettent la main sur quelqu'un, la personne tombe. C'est une expérience, c'est automatique, ils te mettent la main dessus, tu vas tomber. C'est une fatalité. Comment ça t'apprêter? Comment survivre? C'est sûr, tu vas tomber à un moment donné. C'est ça. Ça peut prendre quelques secondes de plus ou de moins, mais tu vas tomber. Et donc, face à des mecs comme ça, j'aimerais bien que Aziz Lali puisse prendre un joker en plus qui n'est pas tant les déplacements, mais plutôt les changements de direction qui compliquent la vie. Parce que le fait de faire un step sur la gauche va désactiver le verrouillage de la lutte qu'a fait le lutteur. Le lutteur, pour pousser, ne peut pousser que sur un axe. Il n'y a pas la biomécanique, la lutte fait que tu ne peux pas pousser sur trois axes. La poussée n'est que axiale. Tu pousses quelque part. Donc, l'idée, c'est que à l'endroit où il y a la poussée, toi, tu te déplaces de cet endroit et le gars, il est obligé de refaire ce qu'on appelle un reset. Il est obligé de se reprogrammer pour se remettre en face de toi et shooter son aménée au sol au moment où tu es immobile ou en tout cas au moment où tu as fixé. Et ce que je demande à des mecs qui ne bougent pas beaucoup comme Aziz, c'est de se dire, frappe, distribue la mort comme tu sais distribuer, mais juste place un pied à gauche, un pied à droite, de temps en temps, de façon à ce que tu réduises l'impact de la percussion et que tu déstabilises les calculs du lutteur. Parce que mine de rien, ce sont des petits calculs très rapides qui se passent en une fraction de seconde où le lutteur va boxer, mais il fait semblant de boxer, mais tout ce qu'il a, c'est qu'il va shooter bientôt. Et en gros, ces calculs, c'est que dans son shoot, même si tu fais le sprawl, il aura ton genou, il va faire un petit pivot qui va créer un déséquilibre. Tous ces calculs sont faits millimétrés sur le bout de ses doigts derrière le muscle poputé de ton genou. Et si tu rajoutes un petit pivot de 5 cm, de 10 cm, tu as faussé les calculs. Il est obligé de déprogrammer son lamine au sol et de reprogrammer sa une fois ultime. C'est ce que j'appelle à la salle désactiver le verrouillage de la cible.
L'autre question que j'avais subsidiaire concernant Alex Pereira-Fernand, c'était, là tu l'as, on l'a vu au deuxième round, qui était pas loin, selon toute vraisemblance, de finaliser par TKO Jan Błachowicz. Est-ce que tu penses même, et qu'en plus, et c'est ça qui était encore plus impressionnant, c'est que c'était, il était déjà le plus imposant chez les middleweight, ça a l'air d'être toujours le plus imposant chez les light heavyweight, est-ce qu'il pourrait être poids lourd?
Ah oui, sans aucun doute, il n'y a aucun doute. Je pense qu'il a le gabarit d'aller haut et surtout de maintenir un bon VO2 max. J'ai l'impression qu'en termes de cardio, il se maintient très bien. Parce que quand on voit le seuil ventilatoire de Jan Błachowicz au troisième round, on se pose des questions. Il était en dette d'oxygène comme j'ai jamais vu. Il était très, très loin. Et on voyait bien que Alex Pereira avait un calme, respirait calmement. On voyait sur son amplitude respiratoire, la fréquence respiratoire, que c'était contrôlé, qu'il avait ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Oui, je suis sûr qu'il pourrait être ces gars qui sont des légers, pas vraiment poids lourds, un peu à un mot de ce mec qui devient la terreur chez les poids lourds aujourd'hui, le Brésilien.
Almeida.
Gelton Almeida, il a le profil de ces gars qui pourraient devenir Gelton Almeida. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné. C'est vrai que je t'ai dit, la trajectoire que prend sa carrière pourrait écrire une histoire parce qu'il a la capacité avec son poids de passer dans toutes les catés et de se faire remarquer dans toutes les catés. Je ne suis pas sûr qu'un poids lourd puisse devenir champion parce que ça cogne dur. Et comme essentiellement son combat c'est debout, je ne le vois pas chercher à amener les poids lourds au sol, je ne vois pas essayer d'amener Thomas Minal au sol. Ça veut dire qu'il va devoir mettre en avant son kickboxing tout le temps chez les poids lourds. Et c'est une catégorie qui est dangereuse si tu restes debout et que tu n'as pas un niveau de debout sophistiqué. Tu peux te mettre sérieusement en danger.
Est-ce que par rapport à... en gros, comme tu l'as dit, ça allait pour Alex Pereira dans le troisième round. Toi, tu as connu une fois, je crois, c'était avec Francis à Denver, un combat où justement qui était en altitude. Comment tu prépares ça? Et comment aujourd'hui tu conseillerais aux gens de préparer un combat en altitude? Parce qu'on voit que c'est pas des conditions habituelles. Et c'est peut-être pour ça aussi que Derrick Lewis y allait à fond dès le début dans son combat.
Bon, nous on a à l'époque déjà, vous avez vu la préparation de Cyril. C'était quelque chose de on a posté pas mal de vidéos dessus à l'époque parce que c'était une préparation sponsorisée par Reebok et donc du coup ils mettaient beaucoup de moyens pour communiquer dessus. Mais on a vu qu'on avait loué un appareil qui permettait de faire que Francis s'entraîne dans les conditions d'altitude. En gros, tu as un appareil sur lequel tu peux régler la rarification d'oxygène pour un peu imiter les conditions que tu as quand tu es à 2000 mètres d'altitude, à 3000 mètres d'altitude, en fonction de ce que tu veux. Tu as des boutons, tu vas juste les régler, tu vas brancher un tuyau pour que le gars puisse respirer. Et puis, sur le doigt, il y a un petit appareil qui va mesurer la saturation pour comprendre où vous en êtes en termes de saturation et capter le seuil ventilatoire et puis les échanges gazeux qui se passent. Donc, en fonction de vos... En gros, il faut commencer à faire l'entraînement 3 semaines en avance, 2 semaines en avance, Le protocole dit qu'il faut au minimum 2 semaines d'adaptation et qu'il faut que cette adaptation puisse suivre, puisse rester très proche du combat parce que la désadaptation se fait très vite. Ça veut dire que si tu veux continuer à avoir les bénéfices de ce truc-là, il faudrait que tu ailles entre le moment où tu passes de l'appareil quand tu es sur une zone comme nous, où on n'a pas d'altitude à Paris, et que tu arrives à Denver, il faut que tu y arrives dans la même journée rapidement avant les voilà que tu avant les 48 heures et que tu puisses te réadapter rapidement à ce que tu as comme est entraîné du coup dans l'atmosphère de ton combat. C'est ce qu'on a fait, c'est juste simple. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup plus que ça. Il y a des questions dans lesquelles tu peux dormir. Tu peux t'acheter en ligne des caissons, des sacs en fait, des espèces de petites chambres qui ont une fermeture hermétique où il y a de l'oxygène à l'intérieur produit par une machine qui va donner la dose d'oxygène que tu veux. Et donc la personne aura l'impression qu'elle dort en altitude, elle vit en altitude, elle s'entraîne en altitude. Ceux qui n'ont pas les moyens peuvent juste aller à l'UFC Institute. L'UFC Institute a une chambre où on peut faire du tapis dans une chambre qui est adaptée, où on peut faire du vélo, où on peut faire certains mouvements de cardio. Bon, on peut passer du temps dans une zone qui est avec un mode d'altitude qui est réglable.
Donc quand on voit Alex Perra qui est arrivé lui 2 semaines avant, c'est la période qu'il faut pour s'adapter.
C'est ça. Si tu veux aller sur le site 2 semaines, 3 semaines avant, c'est l'idéal. Du coup, tu es mieux adapté parce que tu es déjà sur place, tu es acclimaté et tu es en plus adapté pour le time zone, pour le jet lag, toutes les adaptations, l'alimentation, tout, tu t'adaptes correctement, tu dors mieux et c'est l'idéal. Maintenant, si tu n'as pas les moyens d'y aller tôt, sur place, tu pourrais trouver un moyen de. Puisque le principe, c'est simple, c'est qu'en altitude, il y a moins d'oxygène et qu'en altitude, tu consommes, tu brûles beaucoup plus d'oxygène et donc tu respires mal. Et donc, rapidement, les gens sont ultra fatigués. Pour simplifier ce que j'essaie de dire là, c'est juste de dire, on va donc organiser des conditions comme si tu étais en altitude, mais sauf que comme l'air ici n'est pas la même, on va soit te mettre dans un caisson, soit te brancher avec un appareil qui va produire de l'oxygène, qui va filtrer l'oxygène normal de la vie de tous les jours et te donner la petite quantité d'oxygène qui est donnée quand tu es en altitude. Voilà un peu le principe.
Et quels sont les bénéfices pour les gars qui vont, tu sais, par exemple, faire un camp d'entraînement en altitude et puis ensuite qui reviennent à une surface normale? C'est quoi? C'est que tu vas être beaucoup plus, enfin, forcément, je sais pas, en termes de cardio ou de dépenses
Non,
énergétiques,
c'est
c'est, non?
juste que le corps, il s'adapte.
Ok.
Comme il y a peu d'oxygène, il va fabriquer plus de globules, de globules rouges. Il va fabriquer plus de globules qui vont véhiculer l'oxygène et qui vont faire circuler l'oxygène et qui vont permettre que l'échange gazeux soit beaucoup plus, il y ait plus d'apport. Et donc, cette augmentation de ton taux de globules va se ressentir dans ton entraînement pendant quelques jours. Parce qu'aussitôt que tu redescends au niveau de la mer, bah, rapidement, tout se dissipe. Très rapidement, le corps se réadapte au niveau de la mer. Donc, tu montes en altitude, tu t'y entraînes, tu t'y entraînes, tu vas à fond, remue, tu vas où tu veux, tu t'entraînes. Et quand tu ressors, il faut que tu partes de là pour aller à la compétition directement et que tu puisses bénéficier de l'adaptation que ton corps a fait pour à cette altitude-là.
Got it, got it. Maintenant, Fernand, le gros sujet de la semaine, c'est les Français. Là, en ce moment, moi, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose parce que il y a des signatures massives de la part de l'UFC. Certes, ce n'est pas la carte UFC Paris la plus ronflante en termes de nom, mais on voit que l'UFC investit sur le futur, investit sur ses Français pour la suite. Donc, c'est une très bonne nouvelle, mais Fernand, et c'est pas un petit mais, nous sommes tous les deux victimes d'une campagne de harcèlement. Parce que oui, les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe pour le Lazy King. Les gens, je pense que toi, t'as reçu une tonne de messages. Ils voulaient avoir une update sur la situation. Moi, perso, j'ai très peur parce qu'il reste, en tout cas avec tout ce qui a été annoncé, un seul combat pour l'UFC Paris.
Moi aussi, j'ai peur. La réalité, c'est que je suis enfin, le premier touché le premier touché par ce retard et ce manque de clarté sur la situation d'Abdoul et Abdoul en premier. Ensuite, il y a forcément nous, le Management Factory, et puis éventuellement les points de communication comme Kinyan où on s'attend à ce qu'on en parle et qu'on en parle souvent. La réalité, c'est que au bout d'un moment, c'est fatigant. Et je n'ai pas la force de continuer à spéculer, spéculer, spéculer. En gros, ce que les gens voudraient, c'est que j'arrive là et que je dise, bon, je ne sais pas, Abdoul, il va encore signer, il va peut-être signer, il sera à Paris, je ne sais pas. Et le moindre mot, le moindre, enfin, c'est un sketch. Abdoul, il a gagné le tournoi de grappling. J'ai dit, félicitations, Abdoul. Et j'ai mis hashtag UFC Paris dans le sens où je suis comme eux, je veux faire la propagande d'Abdoul et je mets hashtag UFC Paris et il y a tout le monde qui saute dessus et dit, bon, c'est bon. Là, il a dit que Abdoul était à UFC Paris. Mais non, je suis comme vous, je suis un fan d'Abdoul, je suis un, je pousse. Et là, je vais être sérieux. Je pense que dans l'histoire, de tous les athlètes que j'ai poussés à l'UFC, j'ai jamais autant poussé pour quelqu'un. Enfin, voilà. Donc, si ça ne se faisait pas, je serais gravement déçu. Parce qu'il le mérite, parce que je ne comprends pas, mais ça, c'est pas nouveau pour moi. Il y a beaucoup, ça fait très très longtemps. Avec le temps, quand tu viens d'arriver et que tu es un jeune manager et que tu ronfles un peu, tu es content, tu sais pas ce qui se passe. Tu penses que tu as compris l'algorithme en fait de l'UFC, mais tu ne comprends pas. Pour vous donner un exemple, c'est juste, voyez les personnes qui m'écrivent sur Arès et qui souhaitent des fois que Benjamin ou moi on mette un tel ou un tel à Arès. Et des fois, les personnes disent, mais pourquoi tu ne comprends pas? Lui, il est là, il vient de Lyon, il vient du nord de la France, il représente, franchement, s'il vient, il va faire des dégâts, c'est un bon combattant, machin. Et toi, tu es là, tu dis, je ne peux pas le prendre parce que sur mon roster, j'ai déjà un quota de Russes qui est là, j'ai un quota de Brésiliens là, et donc je dis à tous les managers, à partir de maintenant, ne me parlez pas d'un mec venu de l'Amérique latine, Costa Rica, machin, je n'en veux pas. Pas que j'ai un problème avec eux. Le quota que j'ai dans l'organisation est déjà énorme parce que c'est toujours une affaire d'offres et de demandes. Ne me parlez pas des Russes, parce que des Russes, en tout cas, des Caucasiens qui ont 14-0, 17-0, 20-0, 22-0, j'en ai à l'appel. J'ai tous les gars qui devaient combattre à l'essayer, qui se présentent devant Arès et qui disent, je veux combattre. Et donc, je ne peux pas. Je peux prendre des gars qui sont des russophones, mais qui ont une identité Schengen de l'Europe, qui ont une identité hollandaise, qui ont une identité suédoise, parce qu'il y aura un public qui va suivre et parce qu'il y aura la télévision qui va payer les droits de télévision. Je ne peux pas prendre tous les Russes parce que j'ai plus de place. Ensuite, les Brésiliens, pareil, il y en a à l'appel. Donc, c'est la même situation qu'on a où on s'est dit, bon, je vais remontrer, enfin, cette conversation que j'ai avec toi, c'est une conversation que j'ai avec Abdoul, hein. C'est que j'ai des conversations comme ça souvent avec Abdoul. On en parle avec les collègues, que ce soit Clément Marcus, que ce soit Ben Kassem, enfin, tout ce qui est autour de l'entourage d'Abdoul et tout, on parle beaucoup, on se fait des réunions, on discute. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Pourquoi ils tardent? Pourquoi et heureusement que sur les échanges de communication, je fais toujours apparaître les screenshots de mes échanges qui vont rester privés pour le public, mais que Abdoul lui l'a déjà vu, où il voit, écoute, pas là tout de suite, la prochaine fois qu'on revient à Paris, il sera sur la Fat Cat et tout. Ce sont des screenshots. Des messages assez clairs dessus. Mais je vous dis encore, je suis le capitaine de la propagande Abdoul, sauf qu'on bosse sur des bords différents. Vous, les collègues, vous êtes en train de travailler pour Abdoul en surface, sur les réseaux sociaux, moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas passer mon temps à faire la campagne sur Twitter en disant Abdoul à l'UFC, Abdoul à l'UFC. Mais la même chose que vous faites, je le fais en douce de l'autre côté, de tous les côtés, sur toutes les phases possibles. Donc, je vous prie de me croire que quand je vous dis, quand je dis dès le début en disant après ça, Abdoul, il n'a plus rien à faire à Arès, quoi. Enfin, il n'a plus rien à faire à Arès. Il n'a plus sa place là. Il a un niveau qui est trop fort. Et ce serait bien qu'il soit à l'UFC. À partir de ce moment, ça a commencé depuis, tu vois. Et puis, je n'aurais jamais, je ne comprends pas là. Actuellement, on est à quoi, en moins de 3 semaines. Et on n'a pas encore Abdoul qui est, je n'ai pas encore reçu le contrat d'Abdoul. Donc, je suis comme vous. Je suis inquiet de ouf, mais à quoi ça sert que je te le dise? À quoi ça sert que je le dise aux collègues? Je me dis juste, Fernand, ferme ta bouche et attends. Il n'y a que le résultat qui compte. Est-ce qu'on aura le contrat d'Abdoul? Voilà, on l'aura. Est-ce qu'on ne l'a pas? Ben, on va s'adapter, on va faire autre chose. C'est aussi simple que ça. Mais croyez-moi que ça m'attriste beaucoup. Et malheureusement, je ne peux rien. Et avec le temps, en tant que manager, tu commences à comprendre un peu que les algorithmes de toutes les organisations, tu ne peux pas maîtriser le pour du comment, de enfin, j'ai vécu une chose pareille avec Karl Amoussou à l'époque. Karl Amoussou, je suis allé très loin pour essayer de signer. C'est que je suis arrivé à faire un accord avec le président du Cage Warrior Grand Ball pour que il puisse avoir un co-management et que Grand Ball le mette à l'UFC si moi j'avais un problème. Et il a dans la clé, c'était il fait un combat au Cage Warrior pour la ceinture, il devient champion. À partir de là, Grand Ball le pousse à l'UFC avec moi. On a tout essayé, mais tout essayé, et par rien exemple, à faire.
Et justement, pour Karl, qu'est-ce qui a coincé selon toi?
Je ne saurais jamais. Je te promets que la question que tu me poses là, je l'ai posée à d'autres. Manager, je l'ai posé à... Enfin, on est d'accord que le Cage Warrior, ils ne sont plus... Enfin, le management de Grand Ball n'est plus... Ils n'ont plus rien à prouver en termes de signer des mecs à l'UFC. Quand je me suis rendu dessus, c'est que je me suis dit, bon, j'ai une dizaine de gars à l'UFC, mais ce mec a passé à l'UFC une cinquantaine de mecs, parmi lesquels Joanna Jezesic, parmi lesquels... Conor McGregor, parmi lesquels, enfin, il y a plein de mecs qui sont passés par là et qui sont arrivés à l'UFC. Donc, je me dis dans ma tête, bon, il va pouvoir avoir une solution pour Karl Amoussou. Mais non, rien n'a été fait. Bon, enfin, on se voyait, on faisait des réunions et il me dit, je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'ai pas de réponse. Il n'est pas intéressé, je ne sais pas ce qu'il veut. Et on te parle de l'époque où Karl Amoussou était le numéro 1 en Europe. Donc voilà, c'est resté comme ça. On n'a jamais su pourquoi. J'espère que ce ne sera pas la situation pour Abdoul, parce qu'il mérite beaucoup plus. Mais rassurez-vous, il est le premier qui est déçu du fait qu'il ne soit pas encore entré par la grande porte. Et le nombre de fois où il a carrément dit, bon, tu sais quoi, Fernand, ils m'ont saoulé, puis on va ailleurs. Et puis, je dis non, on va patienter. Le matchmaking dessus est un peu lent, la construction de la carte est lente, on va patienter. Et puis, sait-on jamais, et puis voilà. Mais la réalité, c'est que je peux pas t'expliquer, je peux rien dire. Pour ne pas dire des conneries, je préfère ne pas en parler et jusqu'à ce que j'ai la réponse finale.
Petite parenthèse là-dessus. Il se passe quoi aujourd'hui avec l'UFC, avec l'annonce, ou en tout cas construction des cartes? J'ai l'impression que c'est hyper tardif. Par exemple, l'UFC 293, donc qui a lieu une semaine après l'UFC Paris, on n'a pas de main event pour l'instant.
C'est une folie totale. Je ne vais pas dire ce que je...
pense.
Non, ce que je sais, ce que des collègues... Parce que le matchmaking a... Je converse avec 3 niveaux différents du matchmaking. Sean, Hunter et Mick. Et ils ont chacun leur méthode de travail. Et donc, entre les collègues, ils peuvent trouver que l'un est plus rapide que l'autre. Et tu ne vas pas comprendre. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Je sais juste que au moment où on n'a pas encore terminé la Fight Cat et où on attend encore des noms, on est déjà en retard pour certains dossiers médicaux. Tu vois, Cyril Gane a été annoncé le premier. Au moment où on annonçait, donc, au moment où, donc c'est Inter qui valide Cyril Gane. Au moment où Shane annonçait William Gomis, le service médical de l'UFC Paris 2 me réclamait déjà tous les dossiers médicaux de Cyril. On était déjà en retard sur le choix de la tenue, l'état des cornermen, tout ce truc administratif. Et tu te dis, quand ils signent des mecs en dernière minute, alors qu'ils ont des... Enfin, quand ils construisent la carte de l'UFC 293 ou 291, alors que l'UFC Paris n'a pas encore été construite, comment ils font? Quand ils font le matchmaking et ils terminent le matchmaking de l'UFC Abu Dhabi, c'est quasiment terminé, la carte. Pendant que Paris n'est pas encore terminé, donc on a, nous, moi j'espérais avoir, je pensais sur le calcul, avoir 4-5 mecs sur Paris, mais on a dispatché avec Nassoudine Imavov qui se retrouve du côté d'Abu Dhabi, avec Daria qui se retrouve du côté de Las Vegas en début octobre. Donc du coup, on a un peu nos athlètes qui sont dispatchés. Mais je t'ai dit que j'ai le dossier médical, j'ai les papiers médicaux de Daria qui sont déjà avancés. J'ai les papiers de Nassoudine Imavov qui ont déjà commencé à avancer. J'ai déjà les tickets de pré-vente de l'UFC à Abu Dhabi. J'ai déjà reçu le lien pour acheter les tickets moins chers pour les combattants les associés, en tout cas les sponsors et les amis du combattant. J'ai déjà les liens pour Abu Dhabi et je n'ai pas encore eu le retour de la finalisation de l'UFC Paris. Donc, je pense qu'ils sont des êtres humains comme nous et qui sont débordés et qu'il y a certains trucs à faire. Ça me permet de profiter pour demander de la tolérance à tous nos collaborateurs sur ARES qui comprennent que on est des fois débordés. J'en parlais ce matin avec un collègue, avec Benjamin pour ne pas citer son nom, où je disais comment c'est possible que on soit à la fin du contrat de Derrick Lewis et qu'il n'y ait pas de signature de contrat quand on connaît l'histoire entre Derrick Lewis et Francis Ngannou. Derrick Lewis est l'une des rares personnes qui a battu Francis Ngannou. Le PFL propose beaucoup d'argent pour affronter Francis. Derrick Lewis est un adversaire parfait pour Francis. Pour la revanche, pour les sous et pour la pénibilité qui est moindre. Et il est libre sur le marché au moment où il vient de faire une victoire par un coup de genou sauté. Et donc, on en parlait, on disait...
Tu penses qu'il peut signer ou pas ?
Petite erreur. Je pense qu'ils l'ont vu descendre et qu'ils pensaient qu'il était sur la descente, et qu'il vient de faire un rebond et que sa valeur sur le marché est montée très, très fort. Et là, c'est chaud.
Parce que bon, oui, c'est vrai qu'on a... Si, je crois qu'on en avait parlé brièvement, mais là, donc, Pépi a signé au PFL. Est-ce que t'as d'autres athlètes ? T'avais expliqué que t'avais deux autres athlètes qui allaient peut-être suivre, non ?
Yes.
Et je sais officiel, là, ou pas, pour l'instant ?
Une nouvelle arrive.
Ok.
On va dire une petite bombe de nouvelle arrive.
Ok. Ok. Pour le PFL Paris, ou... Ok.
Oui.
Ok. Bon, bah, suivre en tout cas de ce côté-là. Mais pour le coup, par rapport à ces signatures avec le PFL, justement, là, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est, on a l'impression, par contre, qu'il se passe quelque chose avec les combattants français, ou qu'aujourd'hui, il y a plus besoin, comme il y a quelques années, quelques mois, d'être entre guillemets, hein, bien évidemment, quand je dis ça, top athlète avec une grosse hype pour que les gens s'intéressent et que même l'UFC signe des talents. Aujourd'hui, on voit qu'ils prennent des athlètes qui sont beaucoup plus jeunes dans leur carrière. Et pas forcément les noms qu'on attendrait aussi.
Parce que la vie, c'est une affaire de valeur que le peuple donne à ses athlètes. Ce combat dont je parle à chaque fois, en disant il faut exporter le MMA français. C'est pas un jeu. Chaque fois qu'on vend le MMA français parce qu'un de nos gars a fait une belle performance, on retient ce qu'il a fait. Quel qu'il soit, Fares Ziam va en Angleterre et fait une belle performance, on retient. Benoît Saint-Denis va, je sais pas c'était où son dernier combat, il fait une performance, on retient. William Gomis, on lui met un piège, on lui met un jeune qui s'appelle Francis Marshall, un très bon lutteur qui est censé lui marcher dessus et parce qu'il est invaincu et passé, il va à Las Vegas, il le bat. Rapidement, la cote du MMA français est en train de monter. Rapidement, très rapidement. Parce que dorénavant, on s'est dit, bon, on les voyait comme étant des mecs qui venaient juste pour boucher de tout, une petite nation de MMA. Mais non, il y a vraiment du potentiel. Et plus, et c'est un cercle vertueux, plus on va croire en nos jeunes, plus ils vont croire en eux, et plus ils vont faire des performances. Parce qu'on croit, aujourd'hui, les Français demandent un col, les Français demandent des adversaires qu'on n'imaginait pas à l'époque. Il y a quelque chose qui se passe. Et petit à petit, ça va continuer à monter. Et non, je n'ai aucun doute là-dessus que bientôt, ce que je veux dire, c'est que les camps d'entraînement, au lieu de continuer à aller chercher à l'extérieur avec vos gars, invitez les gars à Paris. Ça fait partie du développement de la culture de notre sport. Rappelez-vous qu'un gars comme Khabib, le message qu'il envoie, vous n'avez pas compris, c'est pas un vrai message. Il faut le capter, le message. Je vous pose juste la question, à quel moment vous avez vu quelqu'un, donnez-moi un nom de quelqu'un qui allait se présenter au Daguestan pour préparer un combat. Khabib lui-même ne s'est pas entraîné au Daguestan. Il s'est entraîné au Daguestan en fin de carrière. Il a fait quelques entraînements là-bas pour le MMA. Sinon, c'est la lutte qu'il faisait au Daguestan quand il était jeune. Mais toute sa carrière de MMA, il l'a faite aux États-Unis. Tous ses cousins, ses frères l'ont fait à l'équipe. Il n'y a pas un mec qui prend son billet d'avion qui va au Daguestan pour s'entraîner. Il n'y a pas. J'ai jamais vu Nassourdine qui me dit coach, ces vacances-là, je vais rentrer au Daguestan pour aller lutter. Je n'ai jamais entendu ça de la part de Nassourdine, ni de son frère Daguia. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il est en fin de carrière et il va vendre le tourisme de son pays. Brother, come to Daguestan. Les gars, je vous dis, on n'a peut-être pas la meilleure lutte. On a l'un des meilleurs striking au monde. Il faut que nos teams commencent à faire venir des gens qui viennent se préparer chez nous. Il faut qu'on commence à dire, lui, il a gagné la ceinture parce qu'il s'est préparé en France. Et c'est vraiment possible. Il faut arrêter de... Quand on voit que Lyon-Edouard a gagné son combat en se préparant en Angleterre, on est content. Tout le monde en parle. Bah, c'est possible aussi chez nous. C'est vraiment un truc où les gens ne se rendent pas compte que c'est un truc où tu prends de la hauteur et tu dis, les gars, venez, on rend ce truc possible. Plus on va vendre le côté exotique de la France pour la préparation, plus l'écosystème et l'industrie du MMA français va grandir.
Tu penses qu'on pourrait avoir, c'était je crois le plan initial hein, de l'UFC pour 2023, deux événements en France. Est-ce que tu penses que ce sera possible l'année prochaine ou ça va toujours être aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours au point où le nombre d'événements en France est quand même intimement lié au résultat de Cyril et que c'est si un événement en France, c'est forcément Cyril qui est main event?
Pour le moment, c'est le cas parce que Cyril est encore la locomotive, parce que quoi qu'on dise, il est bien, bien, bien avancé. C'est
De très très
très
loin, oui,
compliqué
de
de,
très très
c'est
loin.
que c'est très, 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 les gens ne se rendent pas compte, en fait, quand ils parlent de, enfin, attention, Manon Fiorot, classé numéro un, c'est quelque chose, c'est une mini locomotive à son niveau. Mais
La
la hype qui
notoriété
va,
en
la
vrai, voilà.
notoriété, c'est juste ça, c'est qu'à partir du moment où, à partir du moment où un mec comme Dustin Poirier, Dustin Poirier a croisé Conor McGregor, il a puisé une certaine notoriété. À partir du moment où il a croisé Khabib, même si le combat n'a pas été long et qu'il s'est fait étrangler, il a apporte une certaine notoriété parce qu'il a puisé cette notoriété-là de Khabib. C'est un peu le même principe. C'est que les deux combats qui ont été des combats très durs pour Cyril, Francis Ngannou et Jon Jones, lui ont donné une dimension internationale énorme. Et donc aujourd'hui, ça reste une locomotive et pour le moment, mais très rapidement, en fonction. Tu vois, l'UFC Paris qui arrive là. Peu importe le résultat, c'est pas tant le résultat qui compte. C'est l'ambiance qu'on va mettre là-dedans. Si tous les gars arrivent et ils mettent le feu, que le public est en feu et que l'UFC est débordé de demandes, bah forcément, ils vont créer quelque chose. Alors, si, bien entendu, si Cyril gagne et écrase son adversaire, bah, il y a plus de chances encore pour qu'il y ait un UFC numéroté l'année prochaine. Et donc, du coup, qui dit UFC numéroté dit qu'il y aura deux UFC, un Fight Night et un numéroté dans la même année. Donc, c'est possible, c'est fort possible. Surtout que si le plan de Thomas Spinal marche, c'est un banger. France-Angleterre, c'est une dinguerie. C'est un truc d'adulte. Ça va être une tuerie. Parce que tu as des match-ups de fou à faire. France-Angleterre, t'as des match-ups de fou en fer. Et le clou du spectacle, c'est une folie. Donc, ouais, je pense que c'est possible. On n'est pas loin. C'est juste un effort collectif de se dire, chacun fait son boulot à sa manière. Et surtout, on vend le MMA français. C'est ça qu'il faut vendre. On vend le MMA français. J'ai beaucoup aimé le discours de Farazian qui disait dans une vidéo. Alors, c'était un documentaire, je crois, où il y avait deux parties. C'était une partie où il y avait ces gars, ces coachs, ces hommes de coin, son oncle notamment, qui disait, je pense qu'il faudrait qu'il aille s'entraîner avec les grands pour devenir un grand. Et Farazian disait, moi, j'aime bien, je vais à Stanford, je vais aux États-Unis, je m'entraîne bien, mais je pense que je suis devenu ce que j'étais à partir de la France et que je pourrais continuer à grandir dès la France. Ce discours-là fait beaucoup plaisir parce que c'est l'industrie du MMA français qu'il est en train de vendre. Au-delà de et c'est une réalité, c'est que si vous ne faites pas ça, il n'y a personne qui va vendre votre pays pour vous. Il y a personne qui va venir vendre le MMA où vous le faites pour vous. Il va falloir le vendre à un moment donné. Et si vous avez besoin de l'aide de d'autres personnes pour vous élever, appelez les gars, ils sont chauds. Vraiment, ouais, invitez les gars, ils sont chauds. Et puis voilà.
Alright. Dernier sujet, Fernand. Justin Gaethje, 12 combats, 12 bonus à l'UFC. Dans toute l'histoire du MMA, est-ce qu'il y a un mec où tu te dis il est plus violent, plus intense que Justin Gaethje et des mecs qui t'ont marqué en particulier? On parle pas forcément de, tu sais, de titres ou de, tu vois, des moments où tu t'es dit ouh.
Deux mecs.
Alors.
Pour moi, les hommes les plus violents du MMA, en numéro 3, je mets Justin Gaethje. Euh, euh, par la complémentarité qu'il apporte sur sa manière de combattre. Il est vraiment dans le business de la violence. Son business, c'est d'apporter la violence aux gens, d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'il fait, il veut le faire de manière violente. Et puis, en numéro 2, je vais mettre un mec qui est pourtant, il a fait des... c'est pour ça que j'ai bien aimé que tu puisses mettre le cadre en disant, pas pour ses performances et pas pour ses titres, je vais mettre Tokino Palares. C'est une terreur.
En tout cas, et là, au sens propre, hein, pour le coup. Les...
Ouais. Oui, c'est une terreur. Moi, pour que vous compreniez, Tokino Palares, c'est ce monsieur-là qui, à un moment donné, a été viré de l'UFC parce que pour intégrer et s'aimer la terreur dans le cerveau de tous les gars, de ses adversaires et de tous les gars de sa division, il gardait les clés le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il casse la jambe, qu'il casse une cheville, qu'il casse un talon. Et du coup, il est devenu une vraie terreur. Deux fois, le chemin de mes athlètes a croisé son chemin. Et vraiment, quand on t'annonce que ton élève va affronter Tokino Palares, tu te chies dessus littéralement. Et pourtant, le mec n'est pas si fort. Enfin, il est moyen en boxe, il n'est pas bon en boxe. Mais sauf que tu sais que le combat entre Tokino Palares et ton élève prend 70% de chance de finir avec 6 mois d'hospitalisation. En tout cas, 6 mois d'handicap parce qu'on lui a pété, exposé tous les ligaments du genou. Cette idée-là dans le cerveau d'un entraîneur, d'un manager, d'un athlète, c'est horrible. C'est horrible. On devait l'affronter au Venator en Italie, car la Mousse nous a proposé le combat, et j'ai demandé à ce que l'arbitre central pour le combat soit Marc Godard. Parce que vous l'avez vu, Marc Godard, j'entretiens des bonnes relations avec lui. C'est d'ailleurs pour ça que c'est lui qui constitue les équipes des arbitres de Arès. Parce que Marc Godard, il est très autoritaire. D'ailleurs, on est devenu amis, pour l'anecdote, au Quejoueur, quand je coachais Damien Lapillus, qui affrontait Joe Duffy pour le titre du Quejoueur. Et à l'époque, on s'est connus sur une grosse embrouille, où vraiment, il était ultra autoritaire sur moi. Et j'ai répondu de manière très autoritaire. On s'est un peu pris la tête. Ensuite, discussion après l'événement, et on est devenu amis, vraiment amis. Et donc, je demande à avoir Marc Godard dans le sens où je dis, j'ai besoin d'un arbitre qui est capable d'entrer dans les vestiaires de Tokino et lui dire, si tu tiens une soumission et que tu la gardes plus du temps qu'il faut, dès que ton adversaire a tapé, tu seras disqualifié purement et simplement. Parce que les gens ne voyaient pas à l'époque ce qu'ils faisaient. Les gens ne se rendaient pas compte. Mais quand on mettait des slow motion, on se rendait compte que le combattant tapait des fois, 14 fois, et Tokino continuait à vriller le talon jusqu'à ce qu'il ait la torsion et qu'il ait la rupture des ligaments. Donc, une vraie terreur pour moi. C'est pour ça que je considère que c'est pour moi le deuxième homme le plus effrayant, le plus terrifiant qu'il ait jamais eu dans l'histoire du MMA. Et puis le premier, sans discuter, Axe Murder. Vanderlei Silva.
Eh oui.
Je pense que si aujourd'hui il y a quelqu'un qui mérite le titre de BMF, c'est lui. Il est aujourd'hui on ne se rend pas compte. On regarde un peu les vidéos d'après quand il n'était plus le même. Il avait été opéré du nez. Il parlait avec le nez. On ne comprenait pas. Enfin, on se rappelle plus de ceux qui n'ont pas vécu la bonne époque de la violence de ce monsieur. C'était quelqu'un de possédé. Je n'ai jamais vu une telle violence incarnée. C'était le combat commençait, l'intensité qu'il mettait au pride quand il fixait son adversaire et qui tournait sa tête comme ça et le regard. Enfin, c'était un truc du. Moi, en tant que spectateur, j'avais la chair de poule de mon canapé. C'était d'une violence inouïe. Et chaque fois, chaque action qu'il faisait montrait la détermination à détruire, à nuire, à annihiler.
Aïe, aïe, aïe. Hey, tu nous l'as bien vendu, hein, parce que c'est vrai que Wanderlei Silva, à l'époque, je crois, d'ailleurs, c'est lui qui a la plus grosse série de victoires, du Pride. Je crois que c'est 20 victoires consécutives, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'était quelque chose.
Mais il avait ce qu'on appelle l'effet Tyson. Il avait battu tout le monde avant que le combat ne commence. Mm-hmm. C'est impossible de rester devant un mec qui envoie une telle terreur. Il a fait de son fonds de commerce la terreur. D'ailleurs, l'une des vidéos que j'ai envie de qu'on travaille dessus, c'est un débrief sur le combat de la bagarre entre Charles Sonnen et Wanderlei Silva. C'est quelque chose de très, très impressionnant. Si tu l'analyses et tu découpes tout et tu dissèques tout, c'est une école, enfin, c'est pas une école de vie, c'est pas quelque chose à montrer pour, parce qu'il s'agit d'une rixe, c'est un combat qui est hors des règles. Mais en termes de ingénierie de bagarre de rue, on est sur du très, très haut niveau. J'ai rarement vu deux êtres humains aussi intelligents dans les choix de mouvements de bagarre de rue. Donc, il y a un Wanderlei qui est un instinctif, qui est une boule et qui va aller en mode voyou. Et puis, il y a un autre qui est Tu le sous-estimes quand ça commence, mais dans son langage, c'était au teuf, hein, c'était pour remettre le contexte, c'est lors du teuf où ils sont chacun responsable du coach Brésil pour Wanderlei et du coach Amérique pour Shell Sonnen. Et tu as Shell qui a une stratégie où il ne peut pas se mettre en danger en bagarre. Les coups, ce qu'on appelle le second punch, où tu es surpris par un coup, ne peuvent pas lui arriver. Parce qu'il a une stratégie de communication où il va parler à Wanderlei et tu sens qu'il a ses mains qui sont là et il va faire comme si, donc il croise les mains ici, mais c'est une stratégie, ce n'est pas pour croiser les mains, c'est une attitude pour préparer la frappe qui va venir. Il sait que Wanderlei est une boule, il sent les choses monter dans l'intonation de la voix de Wanderlei, dans la manière dont Wanderlei est en train de respirer. Les deux grosses artères là qui vont battre en fonction de l'amplitude respiratoire et du volume respiratoire et même de la fréquence respiratoire. Et de là, tu peux voir si la personne qui est en train de discuter avec toi est en train d'avoir un mensonge. Qu'est-ce que j'appelle mensonge? C'est que je vais te frapper dans 2 secondes, mais je ne vais pas t'annoncer. Je veux pas que tu saches que je vais te frapper. Et c'est un mensonge. Et quand le corps reconnaît un mensonge, la fréquence cardiaque, il y a ce qu'on appelle un chaos cardiaque. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs avec les tests de mensonges où on réussit à détecter quelqu'un qui ment. On te pose une question et comme il y a l'oscillogramme qui est en train de faire ça et qui va donner des zones en fait et qui va expliquer et qui va montrer que tu as un chaos cardiaque, on comprend que ce que tu dis n'est pas raisonnable. Donc, en gros, ton système nerveux neurovégétatif, ton système nerveux parasympathique, pour le coup, n'est pas en accord avec ce que tu dis. Et donc, il va donner des signaux dans la manière dont ton articulation, dans la manière dont tu articules, dans la manière dont tu respires. Et Shell Sonnen, je vous promets, il est capable de détecter ça. Sur cette rixe entre Wanderlei et Shell Sonnen, à un moment donné, il va le pousser, « I can't let you get close. » Je ne peux pas te laisser t'approcher de moi. Mais c'est une attitude tellement intelligente de sa part parce qu'il a compris que la frappe, l'attaque, elle est imminente. Quand j'en parle, pour que tu comprennes c'est quoi l'attaque, c'est que, pour te donner une image, c'est quand tu regardes des films d'action. Tu as des films d'action, par exemple, comme Sicarios. Sicarios, voilà. Et tu vois, il y a un moment donné qu'ils arrivent sur la barrière, la frontière, là, il y a des voitures qui doivent passer. Et le responsable du commando qui rentre aux États-Unis avec un chef mexicain qu'on a enlevé dit, si ça doit se passer, c'est ici que ça va se passer. Parce qu'il y a un bouchon, on est coincé. Et à un moment donné, il va dire, Impala red on the left. Il parle d'une voiture rouge qui arrive sur la droite. Donc, on sent que le danger arrive. Et il y a un mot technique chez les soldats où on dit contact. Contact veut dire, on y est. Et ils disent gun. Ça veut dire on y est, c'est imminent, ça va froyer. Dans 2 secondes, ça va tirer sale. Et c'est ça que tu vois dans l'attitude de Shel Sonnen. Il est en mode, OK, contact imminent. J'ai plus le choix. Ou je le repousse en premier, ou je prends une pêche. Il le repousse, et dans la foulée, l'autre va balancer une pêche, et il va faire cette amenée au sol qui n'est pas vraiment une amenée au sol. C'est une amenée au sol protective. Parce que je me mets en boule, j'amène au sol, je suis sur lui, et voilà. Bon, je me suis perdu un peu sur. Je suis tellement passionné par cette histoire de Vanderlei que les gens qui sont de la nouvelle génération ne se rendent pas compte, mais je vous dis, vous voulez voir le bad motherfucker qui existe aujourd'hui en termes de combat, repartez dessus et vous allez comprendre pourquoi je mets Vanderlei numéro 1 de toute catégorie. C'était quelque chose.
Ah, c'était la belle époque, Fernand. On a fait le tour pour cette semaine pour King Energy, divisé en trois parties, un peu sur les actus, un peu sur un gros sujet avec nos Français qui montent, et puis là, retour dans le passé avec Vanderlei Silva. Fernand, merci beaucoup, on se retrouve à chaque fois la semaine prochaine, et les Sweet Good Jobs sont de retour.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.